professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les rapports entre théâtre, drame et musique? Quelle distorsion dramatique et remarquable opère Berg, lecteur de Büchner, dans son opéra Wojciech? Le compositeur Philippe Manoury, titulaire de la chaire annuelle de création artistique, nous plonge entre texte et analyse musicale au cœur du drame inachevé de Büchner en 1837 et de sa transposition à l'opéra par Berg entre 1922 et 1925 en trois actes, dans le cadre de sa série intitulée « Musique, sons et signes ». Philippe Manoury met en valeur aujourd'hui le changement des formes par la tension dramatique, notamment dans la sonate de l'acte 2. En fin d'exposé, il montre comment, et je le cite, « Berg renoue avec l'effet convergent de la réexposition de sonate en unifiant tous les motifs dans un même élan symphonique ». Et Philippe Manoury de noter, et je le cite encore, que les éléments sont les mêmes, mais ils sont fortement distordus par le drame. Et c'est cela qui m'a toujours enthousiasmée. Dans le cadre de son blog, Philippe Manoury, professeur émérite de l'Université de Californie à San Diego, fondateur de sa propre académie de composition dans le cadre du Festival Musica à Strasbourg, consacre de nombreux postes au Wojciech de Berg. Au cours du printemps 2005, cet opéra a fait l'objet de son premier séminaire d'analyse musicale durant 10 semaines, justement à l'Université de San Diego. Dans le poste intitulé « L'étranger dans la sonate, acte 2, scène 1 », Philippe Manoury ouvre ainsi. C'est dans cette scène que l'on peut analyser le plus clairement ce procédé de distorsion dramatique de la forme musicale qui régit toute l'écriture de cet opéra. Il s'agit ici, poursuit Philippe Manoury, du premier mouvement de la symphonie qui constitue tout ce deuxième acte et qui, suivant la tradition, est construit sur le plan de la forme sonate. Berg, lors d'une de ses conférences sur Wojciech, ne s'est pas exprimé directement sur ce principe de distorsion dramatique, mais il a donné une intéressante justification de l'utilisation de cette forme musicale en tant que symbole des relations consanguines entre les personnages, c'est-à-dire la mère, l'enfant et le père, Wojciech. Il expliquait, poursuit encore Philippe Manoury, que contrairement à la fugue qui suivra et dans laquelle les trois personnages, le docteur, le capitaine Hauptmann et Wojciech, seront représentés par trois motifs n'ayant aucun rapport entre eux, car ces personnages n'appartiennent pas à une même famille. La sonate procède par engendrement de ces thèmes les uns dans les autres, comme dans une relation familiale. On verra cependant que si la relation mère-fils est subtilement agencée dans la composition des motifs, celle du père avec les autres membres de la famille n'est absolument pas mise en évidence, je dirais même qu'elle est niée. Dans ce même poste, Philippe Manoury met en valeur l'étroite correspondance entre les personnages, les situations et les éléments musicaux par le traitement que fait subir Berg au texte de Büchner. Ici, nous voyons une grande similitude entre les techniques formelles utilisées par Berg et celles que Joyce a mises en œuvre dans Ulysse. Il a souvent été remarqué d'ailleurs que certains chapitres d'Ulysse sont construits suivant des principes hérités des formes musicales. Nous retrouvons aujourd'hui ces passionnants va-et-vient entre littérature et musique. Si le personnage de Wojciech, étranger à sa propre famille qui brise l'équilibre formel de la sonate, nous dit Philippe Manoury, et de ce point de vue, cette première scène du deuxième acte est un des plus beaux exemples que l'histoire de la musique nous ait donné au vu de cette relation toujours difficile à établir entre rigueur et liberté. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 février 2017 pour le cours de Philippe Manoury, Repenser les formes, partie 4, aujourd'hui, nouvel alliage, théâtre, musique.
Alors, je vais donc parler sur les formes dramatiques et formes musicales, en partant d'un exemple très précis que je vais vous dévoiler tout à l'heure avec des exemples. Nicolas Stehmann est un metteur en scène allemand avec lequel je collabore depuis déjà plusieurs mois, même plus d'une année, sur un projet d'écriture qui s'appelle Kein Licht. C'est une sorte d'opéra, on vous en dira un petit peu plus, mais c'est un opéra qui est produit par l'Opéra Comique et qui sera donc donné en création française. Je n'ai pas les dates exactes, mais enfin disons c'est en octobre prochain, à l'automne prochain, et qui partira dans une tournée européenne. Cet opéra est basé sur un texte de l'écrivaine autrichienne Elfriede Jelinek, qui est un opéra en chantier et dans lequel nous essayons, avec Nicolas Stehmann, de repenser la forme opéra, c'est-à-dire de repenser, pour être plus général, la manière de raconter une histoire avec la musique. Parce que l'opéra n'est pas juste, enfin ce que nous connaissons de l'opéra n'est pas l'unique manière de raconter une histoire avec la musique, puisque ça a été déjà, ça existait au Moyen-Âge, ça existe dans d'autres civilisations, comme le Japon par exemple, que je connais plutôt mieux. Et c'est une forme qui a toujours évolué, et à mon avis, il est de notre devoir, si je peux m'exprimer ainsi, de repenser cette manière et de trouver les modes de présentation et de modes de narration qui sont actuels et sur lesquels nous allons parler. Mais alors, je voudrais commencer par parler des formes musicales et dramatiques, puisque il y a toujours eu ce conflit entre formes musicales et dramatiques. Vous savez, ça a agité beaucoup de gens. Il y a la querelle des bouffons, par exemple, où on demandait est-ce que la musique doit être première ou est-ce que c'est les paroles qui doivent être premières. Premier, bon, ça, le débat n'est jamais tranché, ne sera jamais tranché, mais il est quand même générateur de réflexions qui méritent notre attention et qui sont des réflexions, la plupart du temps, provocatrices d'idées musicales. Donc c'est pas juste une division du champ sémantique, je dirais, mais c'est une question que tout le monde se pose et sur laquelle plusieurs compositeurs ont apporté des réponses plus que satisfaisantes et parfois totalement géniales. Il y a un nom que je n'ai pas cité quand j'ai parlé de motifs, et là, pendant, je le regrette, je m'en excuse, pourtant c'était le nom qui s'imposait, c'était celui de Richard Wagner, évidemment. Quand on parle des formes dramatiques et musicales, le nom de Wagner vient évidemment à l'esprit tout de suite, comme celui qui a révolutionné l'opéra après l'ère classique. Et depuis l'opéra, je trouve que nous faisons que de l'opéra, disons, post-wagnérien, c'est-à-dire Wagner a éliminé la division des arias, la division de l'opéra en aria et en récitatif, au profit d'une mélodie continue, tout ça c'est assez connu. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, les éléments sur lesquels le théâtre de Wagner s'appuyait étaient des éléments qui étaient tout à fait classiques, puisqu'il était né exactement la même année qu'un écrivain allemand qui est né à Darmstadt, c'est-à-dire en 1913. Et cet écrivain, c'est Georg Büchner. Et il est très connu que les idées théâtrales de Georg Büchner étaient bien en avance sur son temps. Alors, Georg Büchner est mort très jeune, et il a fait ses études de médecine à Strasbourg, qui était une ville allemande à l'époque. Et le côté médical, effectivement, est quelque chose qui est très ancré dans son écriture et dans ses thématiques. Et Wojciech, donc son drame, est tout à fait inspiré de ça, puisque le père de Büchner était médecin légiste, et il avait d'ailleurs milité pour qu'on n'exécute pas ce Wojciech, qui est un personnage qui a réellement existé. Donc il n'a pas eu gain de cause, Wojciech a été exécuté, mais son père voulait le garder, moins, je dirais, pour des raisons humanitaires que pour faire des expériences médicales, pour connaître un peu ce que c'était le cerveau d'un fou. pour dire les choses clairement. Donc, Georg Büchner était tout à fait au cœur de cette histoire, et il a écrit Voidsex, un drame qui est inachevé, parce qu'il est mort, comme je viens de le dire, très jeune, et c'est un drame inachevé dont il reste que des fragments, et donc on ne sait pas toujours dans quel ordre interpréter ces fragments. Certains sont achevés, on n'est pas sûr, on a des fragments, c'est un peu comme chez Kafka, dans le procès de Kafka, on n'est pas sûr toujours de l'ordre dans lequel on peut agencer les scènes, et le fait est que même dans l'opéra qu'on a tiré Berg, Voidsex, la question du temps est primordiale, mais ça c'est une autre affaire sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir. Mais c'était pour dire que donc Büchner est exactement contemporain de Wagner, né la même année, et son drame Voidsex a été publié par son frère, le frère de Büchner, qui l'a découvert, quoi, et donc il l'a publié. Et petit à petit, c'est devenu une figure emblématique, jamais très populaire, mais en tout cas, qui est parvenu aux oreilles de Alban Berg quand il a fait son opéra Voidsex. Alors, le mot Voidsex a changé en Voidsex pour des raisons principalement sonores, puisque le côté coupant des deux Z intéressait beaucoup Berg, qui l'a beaucoup utilisé dans cet opéra. Alors, Alban Berg a composé cet opéra en 3 actes et 15 scènes, entre 1922 et 1925, et c'est un opéra qui a ceci de particulier, c'est qu'il est très court, il fait 1h30, ce qui est très court pour un opéra, surtout après Wagner. Alors évidemment, il y a quelques exemples comme certains opéras de Strauss qui sont assez courts, mais c'est un opéra qui est très court, il est en 3 actes, mais qu'on joue dans une seule soirée, il n'y a pas d'entracte. Et il est basé sur quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait particulier, c'est que Berg a délibérément voulu utiliser les formes classiques pour cet opéra. C'est-à-dire que chaque scène de l'opéra est composée sur une forme classique, mais qui évidemment est repensée pour les besoins de la dramaturgie. Alors mon propos aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment va s'opérer la distorsion d'une forme classique, donc d'une forme qui est préétablie, qui est comme dirais-je, qu'on pourrait dire coulée dans le marbre d'une certaine manière, et comment Berg va distordre cette forme pour les besoins de l'expression et pour les besoins de l'expression dramatique, pour que cette forme puisse épouser le drame. C'est pas évident, parce que c'est comme si vous avez 2 rouages que vous essayez de faire mettre l'un dans l'autre, et s'ils s'enclenchent bien, ça va, mais s'ils ne s'enclenchent pas, ils s'enclenchent pas. Et donc, Berg a fait preuve d'une imagination hors du commun dans l'utilisation de ces formes. Évidemment, quand on écoute l'opéra, on ne reconnaît pas les formes. C'est-à-dire que ces formes sont des prétextes aussi pour structurer la musique, parce que nous sommes dans les années 20, c'est-à-dire c'est vraiment au tout début de l'époque où les compositeurs commencent à délaisser, enfin ont déjà délaissé la tonalité, en tout cas pour Alban Berg, pour Schoenberg et pour Webern, ça c'est très, très clair. Mais en délaissant la tonalité, on perdait une grande partie de la structure musicale qui guidait l'écoute, qui était quelque chose de très important pour les gens et même pour la psychologie de l'écoute. Et le fait d'utiliser des formes déjà existantes était pour eux une certaine garantie de structuration, parce que même si la musique n'était plus sur des choses tout à fait très faciles à entendre, comme c'était le cas avec l'harmonie tonale, il en reste néanmoins qu'il y a une évolution, il y a une forme, il y a des motifs qui reviennent, il y a des structures qui reviennent, qui nous permettent d'aiguiller et de suivre le discours. Alors, c'est un opéra qui est basé, comme je l'ai dit, en 3 actes. Chaque acte est composé de 5 scènes, donc c'est tout à fait symétrique. La première scène, c'est une suite en 5 mouvements. Ensuite, on nous avons affaire à une rhapsodie. Rhapsodie, c'est une forme libre, que tout le monde connaît, la rhapsodie hongroise de Liszt ou certaines rhapsodies de Bartók. C'est des formes, mais qui est basée sur des éléments de musique populaire. Ensuite, il y a une marche militaire et une berceuse. Ensuite, il y a une passacaille, qui est la scène dans laquelle Voidsex subit une expérience ou une visite médicale chez le docteur. Et ensuite, un rondeau, qui est une forme assez simple, classique, mais qui est une forme qu'on trouve en général à la fin des sonates. Le deuxième acte est vraiment une symphonie. C'est une symphonie en 5 mouvements, c'est-à-dire qu'on retrouve dans chaque scène les formes qui composent la symphonie. Donc on a un allegro de sonate à deux thèmes, de style beethovenien au début. Et ensuite on a une fantaisie et fugue, ça provient plutôt de Bach, mais enfin disons que ce sont des formes très rigoureuses, à part la fantaisie, mais de la fugue et comme la sonate, ce sont des formes très rigoureuses. Ensuite on a un lied, ensuite on a un scherzo, et pour terminer un autre rondo qui, pour des raisons dramatiques, fait référence au premier. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la construction de cet opéra, c'est que déjà, le premier acte présente les situations, c'est-à-dire qu'on présente les personnages. Et là, que je parlais du temps tout à l'heure, il est clair que dans ce premier acte, si on intervertissait l'ordre des scènes, ça ne nuirait en rien à la compréhension du drame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de causalité entre une scène et l'autre. Ça nous présente des personnages, c'est-à-dire Wozzeck, Marie, le docteur, le capitaine, les soldats de la caserne, mais il n'y a pas du tout de relation de causalité, ce sont des flashs. Donc c'était aussi, je pense que Berg a utilisé le fait que l'œuvre était inachevée et que finalement qu'il y ait cette incertitude sur la temporalité pour jouer là-dessus. Alors évidemment, il y a une... on ne peut pas les jouer dans n'importe quel ordre, puisque chaque scène est reliée à la précédente par un interlude symphonique, donc l'ordre est coulé dans le marbre, mais il n'empêche pas moins qu'il n'y a pas de relation de causalité. Par contre, ici, dans la symphonie, les choses sont un peu plus reliées entre elles. Et là, c'est là où va se nouer le drame. Le drame en question, on va venir, mais je peux vous le dire, il est assez simple, c'est Wozzeck est un pauvre soldat, et subit des frustrations de la part de l'armée, puisque c'est un soldat, de la part de la médecine, et aussi de la part de son épouse Marie, puisque finalement elle le trompe avec un tambour-major, ça va pousser Wozzeck à l'assassiner, et ensuite à se suicider, ou on ne sait pas trop si c'est un suicide, ou si c'est un accident. Et donc dans ce deuxième acte, les choses se resserrent, et le drame commence à exploser, c'est-à-dire qu'à la fin, on sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que tous les éléments, là, qui étaient un peu épars au premier acte, sont rentrés en collision les uns avec l'autre dans le deuxième. Et le troisième acte, c'est un petit peu un rituel dans lequel Berg expédie, enfin, donc, chaque élément qui avait trouvé des points de tension dans le deuxième acte, sont résolus dans le troisième acte. Et Berg expédie ça par une série de cinq scènes qui sont très courtes, parce que ce dernier acte fait à peine une demi-heure, et qui sont des inventions sur une petite idée. Alors, il y a une invention sur un thème, sur une note. Première fois dans l'histoire de la musique, on fait une invention sur une seule note. Alors, il n'y a pas qu'une seule note, mais enfin, disons, c'est le centre de la pièce, c'est une note. Invention sur un rythme, sur un accord. Donc, vraiment des éléments du discours musical qui sont primordiaux. Et à la fin, une invention sur un perpétuum mobile, mouvement perpétuel, qui va terminer cet opéra. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Second acte, première scène, c'est celui qui va nous occuper. Je l'ai choisi parce que c'est là où la forme est la plus structurée, c'est-à-dire qu'on reconnaît à l'analyse, on reconnaît vraiment les éléments et on voit très bien qu'on ne peut pas se tromper, ça appartient bien à une forme sonate. Et c'est une scène, comme vous allez voir, assez courte.
Ce que ces pierres brillent, ce sont des quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Dors, petit. Ferme bien les yeux. Mieux que ça. Encore mieux que ça. Ne bouge plus, tais-toi. Sinon, il viendra te chercher. Ma fille, ferme bien ta porte. Que le tzigane ne t'emporte. Qu'il prenne ta petite main. Et t'emmène chez les bohémiens. La 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 la. C'est sûrement de l'or. Nous autres, on n'a qu'un petit coin sur la terre et un petit bout de miroir. Et pourtant, j'ai une bouche aussi rouge que les grandes madames avec leur miroir de haut en bas. Et leurs beaux messieurs qui leur baisent les mains. Je ne suis qu'une pauvre femme. Tais-toi, petit, ferme les yeux. L'ange du sommeil, il court sur le mur, ferme les yeux. Sinon, il va te regarder dedans et tu deviendras aveugle.
Qu'est-ce que t'as ?
Rien.
Sous tes doigts, ça brille.
Une boucle d'oreille, je l'ai trouvée.
J'ai jamais rien trouvé de pareil. Deux d'un coup.
Est-ce que je suis une traînée?
C'est bon, Marie. Qu'est-ce qu'il dort, ce petit? Prends-le sous ses petits bras, la chaise lui fait mal. Il y a des gouttes claires sur son front. Tout est travail sous le soleil, de la sueur, même en dormant. Nous, les pauvres, c'est encore de l'argent, Marie. La solde et quelque chose de mon capitaine.
Dieu te le rende, Franz.
Faut que j'y aille. Ce soir, Marie. Adieu.
Je ne suis qu'une traînée. Je pourrais me poignarder. Ah, c'est quoi ce monde? Tout va au diable. Hommes et femmes.
Voilà, donc la scène est très courte. Et Berg y a vu une sonate. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Comment est-ce qu'on peut extraire une sonate d'une chose qui nous paraît tellement réduite et tellement condensée. Alors on récapitule ce qui se passe. Marie contemple des bijoux que lui va faire le tambour-major. Donc c'était dans le premier acte. Le tambour-major est la personne avec laquelle elle a une aventure. Ça va être la raison d'ailleurs du meurtre de Marie par Wozzeck. Il fait irruption et il la querelle sur les bijoux puisqu'elle prétend avoir trouvé ses bijoux. Et Wozzeck lui dit, t'aurais pu en trouver un, mais moi j'ai jamais trouvé une paire exactement les mêmes. Donc il commence à se douter de quelque chose. Et il repart après avoir donné à Marie l'argent qu'il a gagné à la caserne et chez le docteur où il sert de cobaye pour des expériences médicales. Donc là, on voit que l'argent a une valeur, c'est une famille de pauvres soldats. Mais pour nourrir sa famille, Wozzeck est obligé vraiment de subir des humiliations et qui contribuent d'ailleurs à forger son caractère dérangé, pour tout dire. Alors, voilà comment ça se déroule. D'abord, Marie couche son enfant et lui demandant de fermer les yeux et elle lui chante que les tziganes risquent de venir le chercher, c'est-à-dire que c'est une manière de l'effrayer et c'est une première façon qu'elle a pour le forcer à dormir. Ensuite, elle se regarde dans le miroir en contemplant donc les bijoux que lui a offert le tambour-major. Ensuite, elle retourne près de son enfant et elle lui fait peur avec le jeu de miroir. Elle lui dit que s'il continue à regarder cette lumière, ça va le rendre aveugle. Donc c'est une manière aussi de le contraindre à dormir. D'un seul coup, Wozzeck entre et lui fait donc remarque sur le bijou, qu'elle a au doigt ou aux oreilles, et finalement, il lui donne l'argent qu'il a gagné à la caserne chez le docteur, et Marie pleure, se sentant coupable, où elle se dit qu'elle est une mauvaise personne, elle commence à se morfondre, elle va accélérer ou encore exagérer ou, disons, développer ses traits de caractère dans le dernier acte. Voilà, donc tout ça, on voit que c'est très limité. Et je vais vous montrer maintenant comment Berg a tiré de cette forme dramatique très succincte, comment il en a tiré une forme sonate par le retour des différents motifs. Mais avant d'arriver là, je voudrais qu'on écoute la même scène dans la version de l'opéra de Berg. Et j'ai choisi la version dans la mise en scène de Patrice Chéreau sous la direction de Daniel Barenboim.
Est-ce que
Donc on voit qu'il y a quelques petites différences entre le texte tel qu'on l'a vu dans la version de Büchner enfin, et l'argument de Capriberg. Ces petites différences sont dues au fait que, comme on sait que c'est un opéra qui est inachevé, enfin c'est une œuvre qui est inachevée, le texte de Büchner, il y a aussi plusieurs versions. Donc il faut que les metteurs en scène fassent le choix entre plusieurs versions, puisque Büchner n'a pas fini. Mais on voit que quand même, c'est très près. Alors, comment est-ce que ça se passe? Mais d'abord, je vais vous si vous ne le savez pas, pour ceux qui le savent, je m'en excuse, vous redire ce qu'est une forme sonate. C'est une forme en trois parties. Trois parties, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une exposition. Et ensuite, il y a la reprise de l'exposition dans les sonates classiques, style les premières de Beethoven, enfin les sonates de Haydn, de Mozart. Il y a ce qu'on appelle une barre de reprise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on reprend la musique au début, on rejoue les mêmes séries de mesures deux fois. Ensuite, on a un développement qui est un développement libre, c'est-à-dire qu'on développe un des thèmes. Les sonates classiques ont deux thèmes, généralement, avec une transition. Et ensuite, on réexpose tout ce qui a été fait dans l'exposition. La seule différence, c'est que dans l'exposition, les deux thèmes sont dans deux tonalités différentes, et la réexposition, il y a une convergence, tout est dans la même tonalité, dans la forme classique. Alors, le premier thème, l'exposition en général se déroule en quatre parties, c'est-à-dire qu'on a un premier thème et un deuxième thème séparés par une transition, qu'on appelle un pont, et une coda, qui est reprise donc dans la reprise, c'est joué deux fois. Ensuite, on a un développement libre, et ensuite, on a la réexposition, c'est la même chose, thème 1, transition, thème 2, et coda. Voilà. Donc ça nous forme la forme sonate classique. Alors, ce que Berg a trouvé dans le texte de Büchner, et la manière dont il a collé les éléments l'un à l'autre, donc il a pris, on voit qu'il y a quelques petites différences entre les deux versions qu'on a vues, et ces petites différences sont assez importantes parce que elles vont servir à Berg justement à rattacher les choses. Donc ça c'est un premier élément, comment est-ce que Berg va rattacher cette scène qui est très courte et va l'intégrer dans une sonate qui est pas très longue, cette scène n'est pas très longue, mais enfin c'est une musique qui est très très développée. Voilà, c'est-à-dire que le thème 1 va être lié aux bijoux. Marie contemple les bijoux entre deux passages près de lui de son enfant. Donc, elle contemple les bijoux. Donc, ce premier thème va être le thème des bijoux. On appelle cette scène-là, d'ailleurs, en général, on l'appelle la scène des bijoux. Donc, le premier thème va être la scène des bijoux. Ensuite, elle demande à son enfant de dormir. Donc, ça va être l'objet de la transition qui va nous amener au second thème. Et donc, on change aussi de sujet, on change d'éléments sémantiques. C'est plus les bijoux, maintenant, c'est l'enfant. Et le deuxième thème, elle va lui chanter une chanson de cigane, puisque pour l'obliger à dormir, dès que tu dors pas, les gypsies viendront te kidnapper. Et ensuite, on a une coda qui est juste avec l'orchestre tout seul et avec un motif que pour l'instant on n'identifie pas, mais qui va petit à petit se révéler. Donc, jusqu'à présent, c'est comme ça que ça se passe et on voit que les thématiques suivent les éléments sémantiques ou le contraire. Ensuite, il reprend l'exposition. On va voir que c'est pas du tout une reprise classique, c'est-à-dire qu'il ne réécrit pas la même musique. La musique sera totalement différente, mais on va la reconnaître. Mais elle va être réagencée et ça va être un deuxième noyau de distorsion formelle, c'est-à-dire que évidemment Berg ne va pas recopier exactement la même chose, puisque le drame fait qu'on ne répète pas la même chose, on va plus loin. Donc la musique doit suivre ce chemin-là. Donc Marie revient vers le miroir, elle se recontemple. Donc ça fait pendant au début. Donc elle a essayé, elle était près de son enfant, et elle revient près de la miroir, elle se demande si ses bijoux sont de l'or, et elle fait une comparaison en disant qu'elle porte les bijoux que pourrait porter une dame du monde, mais elle n'est qu'une pauvre femme du peuple, donc c'est une réflexion là-dessus. L'enfant ne veut toujours pas dormir, donc Marie revient vers le lit de l'enfant, et on revient sur la transition, donc on a exactement les mêmes éléments thématiques, les bijoux et l'enfant, les bijoux et l'enfant. Et là, elle l'effraie avec le miroir. Avant, elle lui chantait une chanson de cigane, mais là, puisqu'elle a le miroir dans les mains, puisqu'elle se regarde dedans avec les bijoux, elle l'effraie comme un miroir en lui disant « Si tu arrêtes pas de regarder ce miroir, tu vas devenir aveugle. » Donc, c'est d'autres manières de l'effrayer. Donc là, qu'on voit, on a les bijoux, elle demande à son enfant de dormir, et elle lui fait peur. Soit en lui chantant une chanson de cigane, soit en lui faisant des jeux de miroir. Et ensuite, on a la coda, donc la fin, et là c'est l'entrée de Wozzeck. Et Wozzeck rentre. Alors Wozzeck dans l'opéra, c'est toujours celui qui rentre quand on l'attend pas. Hein, c'est pas, il rentre toujours au mauvais moment, dans le mauvais endroit, et ici il rentre et il va briser cette atmosphère intime qu'il y avait entre la mère et l'enfant, rien que par son entrée. Donc on voit que ici, voilà, on voit la relation entre la forme musicale et les éléments sémantiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le développement? Eh bien, Wozzeck voit que Marie a des bijoux, et il s'en étonne, bien sûr, et il la querelle à propos des bijoux. Donc, Marie, elle, va se défendre, mais l'objet de la querelle, ce sera les bijoux, et donc Berg va en profiter pour faire un développement sur le thème des bijoux, c'est-à-dire le premier thème de la sonate. Donc, encore un lien qui fait que... Alors, le développement est libre, on peut faire ce qu'on veut dans un développement de sonate, mais on est obligé de développer sur des éléments qui ont été exposés. Donc là, on a ce thème des bijoux, mais qui correspond aussi au thème, ce premier thème qui correspond au thème des bijoux, puisque c'est sur cet élément-là que Wozzeck va quereller, va se disputer avec Marie, va lui faire des remontrances. Et ensuite, qu'est-ce que fait Wozzeck? Il voit son enfant qui dort, ou qui fait semblant de dormir, on ne sait pas, et il se demande pourquoi son enfant dort tout le temps. À chaque fois que Wozzeck rentre, il ne voit jamais son enfant, parce qu'il dort tout le temps. Donc, on revient à l'élément qui était le second élément de la transition, qui était l'élément du sommeil. Les bijoux, alors les bijoux ici, les bijoux là, le sommeil là, et le sommeil là. Donc, Berg va faire un développement sur l'élément de la transition. Donc, on reste toujours dans le développement, et il suit, en suivant l'évolution du texte, il va raccorder les éléments thématiques qui leur correspondent. Et ensuite, alors après, il y a quelque chose qui sort un petit peu du contexte de l'opéra, et là, c'est aussi une troisième dimension, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la forme intègre des éléments dramatiques qui ne la contiennent pas, enfin, qui n'ont aucune raison d'être là, si ce n'est une raison dramatique. Et ça va être le cas, c'est que Berg va faire une citation d'un aria qui a été chantée dans le premier acte, dans lequel Wozzeck décrit un peu sa condition de pauvre garçon, des gens pauvres, quoi, des gens qui sont dominés et qui sont pauvres, comme il y en a encore aujourd'hui. Et alors ensuite, conclusion, Wozzeck donne l'argent à Marie et sort. Et donc ça, ce sont les éléments qui sortent de la sonate. Ça n'appartient pas à la sonate, mais on va voir comment c'est fait. Réexposition, Marie se sent coupable, donc il y a une scène de lamentation. Et ensuite, c'est l'interlude symphonique, puisque chaque scène va être liée à la prochaine par un interlude symphonique. Et justement, ici, Berg va se servir des éléments de la réexposition pour s'en servir pour faire l'interlude symphonique. Et ce qui fait ça, ce qui est magnifique, c'est qu'on sent qu'ici, il aurait écrit cette œuvre-là comme une symphonie, vraiment, puisque c'est une symphonie, mais il l'aurait écrit sans l'argument dramatique. Il aurait pris autant de temps pour faire la réexposition qu'il a pris pour faire l'exposition. Si on donne les proportions, on fait à peu près la même chose. Et là, on s'aperçoit que Berg va aller très vite. Il va envoyer ça d'un seul coup, juste parce que la nécessité dramatique lui commande d'aller à la scène suivante. Et donc, on voit qu'il y a l'élément temporel qui joue beaucoup ici, c'est on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on ne va pas s'amuser à récapituler tout comme on en fait dans une sonate classique. Non, maintenant, il faut passer à la suite. Donc, le drame commande d'aller plus vite. Et Berg va le faire de manière très accélérée. Par exemple, il enlève la transition. Il n'y a plus de transition. L'élément de la transition, il le supprime. Et il passe directement du premier thème au second thème. Et il va conclure très brièvement sur le motif de transition qui est extrêmement court, qui fait quelques secondes. Donc on voit qu'il enlève des éléments pour aller plus vite. Alors voici ce qui se passe dans ce motif de la thème. Je vais faire écouter donc le début de cette scène, le premier thème de cette sonate, donc cette symphonie, mais qui est une forme sonate, qui est reconnaissable surtout, parce que vous allez reconnaître un motif brève, longue, brève, longue. Brève, longue, c'est ça qui va faire la chose la plus reconnaissable dans ce motif. La fin, on reconnaît Tita, ce motif de brève longue, et Berg fait une chose qui est ce qu'on appelle un morphing, c'est-à-dire qu'il va petit à petit contracter ces deux éléments en deux notes régulières qui se répètent, et ça va devenir le motif de la transition, donc quand Marie va demander à son fils de dormir, qui est basé sur ces deux notes répétées.
Manouri, aujourd'hui Repenser les formes, partie 4, le nouvel alliage théâtre-musique.
Donc on arrive au deuxième thème, et là Berg va reprendre quelque chose qu'il avait montré dans le premier acte, ce qui est la berceuse. Il y a une berceuse dans le premier acte où on voit l'enfant et Marie lui chante une berceuse qui est une sicilienne, qui a un rythme très doux, très, très, très lent, très, très coulant. Mais ici, Berg va la parodier, donc on retrouve la mélodie de la berceuse, mais vous allez voir, c'est un rythme très saccadé, donc c'est une parodie, c'est une berceuse un peu rude, je dirais, comme elle l'est avec son fils dans cet opéra. Et donc, on va avoir cette parodie qui va être accompagnée par un solo de violon, et ce solo de violon est évidemment une référence à la musique tzigane, ce ne sera pas la seule, puisqu'il est question de tzigane dans ce moment-là. La voix grave à la fin est une autre référence à la musique tzigane, puisque, évidemment, on sait que les chanteuses tziganes sont spéciales pour avoir des voix qui descendent très graves. Et donc, c'est une parodie de musique tzigane, tout en étant une parodie de la berceuse. Et donc, on arrive à la fin de cette exposition et à la coda, c'est-à-dire que sur les dernières notes de Marie, donc ces notes un petit peu à caractère tzigane, l'orchestre va jouer un motif qui, pour l'instant, ne nous est pas connu. qui est un motif qui est basé sur une succession de répétitions irrégulières de la même note. Alors, ensuite, là, on a fini l'exposition. Là, on est maintenant dans la reprise. Donc, on va reprendre l'exposition. Mais vous allez voir que, si vous avez encore un peu dans la tête, mais on va les comparer, vous allez voir que la manière dont Berg reprend le premier thème ne ressemble en rien à celle qu'il avait eue pour l'exposer. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, c'est beaucoup plus lent, long que la précédente. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'on n'a plus ce rythme brève-long sur lequel j'avais attiré votre attention. Mais au contraire, on a comme des arrêts sur image. C'est-à-dire que Berg a introduit du point d'orgue. La musique se joue et s'arrête. Elle commence, elle s'arrête. Pourquoi ? Marie se contemple dans la glace. Et quand elle se contemple dans la glace, le temps n'existe plus. Donc elle n'est qu'avec elle-même. Et donc on n'a pas ce mouvement rythmique, enfin disons cette avancée du temps, mais le temps s'arrête puisque Marie est dans la contemplation d'elle-même. Alors on va écouter juste un petit montage que j'ai fait où vous allez entendre, vous allez reconnaître les relations qu'ont le thème la première fois qu'il a joué et la deuxième fois avec ses arrêts sur image, ou ses arrêts sur des sons plutôt. Vous allez voir qu'on reconnaît quand même dans les mélodies, on reconnaît un air de famille, on retrouvera les mêmes choses, mais voilà une manière dont Berg fait la reprise, donc c'est une réécriture, il utilise ce qu'on appelle une réécriture, c'est-à-dire qu'il réécrit totalement la pièce, mais à partir du même matériel, et quand on les met l'un à côté de l'autre, évidemment, on entend vraiment ce procédé de réécriture. Voilà donc, premièrement, là, au début, première fois, brève longue, deuxième fois, avec arrêt. Voilà. On entend bien que on a les mêmes notes, mais on n'a pas du tout la même expression musicale. Alors ensuite, quand il est toujours dans la prise, c'est la transition. Donc, Marie revient, et cette fois-ci, elle ne va plus lui parler de cigane, mais elle va l'effrayer avec un miroir. Et si vous vous souvenez bien la manière dont c'était fait dans la première fois, on avait ces deux notes répétées. On avait une séquence dans l'aigu et une séquence dans le grave. Dans l'aigu. Et maintenant dans le grave. Dans le grave. Et quand il va faire ça dans la reprise, il va garder les mêmes choses, mais il va alterner les aigus et les graves dans le même mouvement. Grave, aigu, grave, aigu. Et donc on arrive à la coda, Wozzeck entre, et ce motif qu'on ne connaissait pas tout à l'heure, mais bon, qui concluait. Pour les gens qui ont écouté l'opéra de premier acte, ils le connaissent, enfin ils le connaissent et l'identifient, ça s'appelle le motif du malheur de Wozzeck, donc c'est celui-là qui est joué cette fois-ci, mais d'une manière qui décrit le ton et l'aspect un peu pesant du personnage, Wozzeck, qui arrive épuisé, un peu hagard, et c'est joué par trois trombones. Voilà. Et d'ailleurs, ce motif interviendra à la fin de l'opéra d'une manière très dramatique. Ce sera lui qui fera le climax de l'opéra, qui culminera à la fin de l'opéra, et on le reconnaît avec cette scansion, ces notes qui se répètent de deux en deux. Voilà. Alors maintenant, rapidement, le développement. Alors vous allez voir là aussi comment le drame va servir d'élément de distorsion pour la musique. Qu'est-ce qui se passait, vous vous souvenez? Marie se regardait dans la glace, elle contemplait ses bijoux et on avait ce rythme balancé, brève, longue, que je vous avais fait remarquer au début de cette séance. On va le réécouter. Hein, c'est... Voilà, brève, longue, ti-ta. Alors ce rythme balancé, brève, longue, quand Berg va le reprendre, parce qu'on revient aux bijoux, Wozzeck lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu as des bijoux? Est-ce que tu les as trouvés ?» Et cette fois-ci, il est vraiment étonné, en colère et choqué, et Berg va contracter ce motif. On le trouvera toujours « brève, longue », mais au lieu d'être « ta-ti, ta-ta », ce sera « ta-ti, ta-ta, ta-ta ». C'est-à-dire, et puis avec des intervalles, au lieu des petits intervalles, ce sera des grands intervalles. Donc c'est ce que j'appelle un motif hirsute, c'est-à-dire qui va être, on reconnaît la forme générale, mais l'expression a totalement changé, et là c'est l'expression qui sous-tend, qui montre la colère ou l'étonnement et le désagréable étonnement de Wozzeck. Voilà.
Ich hab sowas noch nicht gefunden. Zwei auf einmal.
Ich versteh mich.
Siehst du, Marie, siehst du.
Ensuite, Berg va utiliser d'un autre élément du développement. C'est quand il va, vous vous souvenez, il demande pourquoi est-ce que son fils dort. Donc, il reprend l'élément du sommeil, mais au lieu d'être vertical, c'est-à-dire ces deux notes répétées comme ça, comme des accords, il va la faire de manière horizontale. C'est-à-dire que Marie était rude avec son fils, donc il y avait cette verticalité, ce côté rythmique qui était montré. Et là, il va reprendre, c'est exactement les mêmes choses, mais au lieu de mettre jouer les notes ensemble, il va les dérouler horizontalement. Et vous allez entendre l'un et l'autre, et vous allez voir que là, l'expression aussi a changé du tout en tout, mais on reconnaît, enfin, on peut re-identifier le même motif, si on cherche bien, évidemment. Voilà l'original. Et maintenant?
Was der Buch immer schläft, greif ihm unters Ärmchen, der Stuhl drückt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn, nichts als Arbeit.
Et ce développement se termine donc avec cette citation de Wir arme Leute, donc qui est l'élément sur lequel qu'il avait présenté au premier acte, qui était l'aria qui terminait la suite de la première scène. Il lui donne de l'argent.
Die Löhnung und was vom Hauptmann und vom Doktor.
Gott vergeht's, Franz.
Ich muss fort, Marie. Adieu.
Donc on voit que les éléments sont les mêmes, on les reconnaît, mais ils sont fortement distordus par le drame. Et c'est ça qui m'a toujours enthousiasmé avec cet opéra, et pas qu'avec celui-là, mais Loulou aussi, mais celui-là en particulier, c'est vraiment de voir cette distorsion des éléments musicaux qui sont affirmés, mais qui changent de forme pour des raisons dramatiques, et c'est ce que j'appelle souvent la distorsion de la forme musicale par la forme dramatique. Et comme dernier exemple, je vais vous faire écouter donc cette réexposition, comme je dis, qui devait avoir les mêmes dimensions que l'exposition, mais que Berg va exposer de manière très rapide, comme en accéléré, pour passer à la scène suivante. Et à la fin, vous allez reconnaître les deux accords qui sont ce motif de transition, je vous rappelle qu'il a enlevé, et qui place juste à la fin, et qui va brutalement terminer cette scène. Donc, c'est comme un film en accéléré, dans lequel tout va être récapitulé de manière très rapide, comme je le dis. Court, on ne peut pas faire plus court, et là on passe à la scène suivante qui est la fugue. Voilà, donc c'est ce que j'avais choisi donc, pour vous montrer c'est une des manières dont s'articule forme dramatique et forme musicale.
Zwei auf einmal! Schreckt mir! Buch immer schläft. Reif ihm unters Ärmchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Speise und Schlaf.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 24 février 2017, Philippe Manoury. Aujourd'hui, Repenser les formes, partie 4, le nouvel alliage théâtre-musique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Manoury et les références des extraits sonores. Nous avons également présenté une archivina, extraite de la pièce de théâtre Wojciech de Büchner, diffusée sur France Culture dans le cadre de la série Théâtre et compagnie, le 2 septembre 2007. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard sous le titre « L'invention de la musique ». Il a également publié avec Pierre Boulez et Jean-Pierre Changeux « Les neurones enchantés », entretien sur le cerveau et la musique chez Odile Jacob en 2014. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et à Virginie Chauvetet. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous débuterons une nouvelle partie, Temps et musique, en compagnie du compositeur Philippe Manoury. Dans le cadre de sa série Musique, sons et signes, il nous plongera dans les stratégies de l'écoute. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.